20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Victorien Van Oosten qui vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Toulon. C'est un chef que vous connaissez bien puisqu'il a dirigé à deux reprises la folle soirée de l'Opéra Radio Classique. Mais avant, je voudrais vous parler de Jérôme Boutillier. Il vient de triompher dans le rôle de Germont dans la Traviata de Verdi à l'Opéra de Marseille. Et il s'apprête, le 20 mars prochain, à l'Opéra de Saint-Étienne, à réaliser un exploit peu commun. Il va s'accompagner lui-même dans le célèbre cycle « Le voyage d'hiver » de Schubert. Jérôme Boutillier chante assis au piano, le piano qui est son premier instrument d'ailleurs, puisqu'avant d'être chanteur, Jérôme Boutillier a été pianiste accompagnateur et chef de chant. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait du « Voyage d'hiver ».
Träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, vom lustigem Vogelgeschrei, vom lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben von Bach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben von Bach.
Jérôme Boutillier dans Le Voyage d'hiver de Schubert, Jérôme Boutillier qui s'accompagne lui-même au piano dans ce cycle qu'il donnera le 20 mars prochain à l'Opéra de Saint-Étienne, puis le 8 juillet au Festival Lyrique de Montpéreux dans le Doubs.
Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
Invité du journal du classique ce soir, Victorien Van Oosten, bonsoir.
Bonsoir Jean-Michel.
Alors votre actualité est particulièrement riche puisque vous venez d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Toulon et vous venez aussi de diriger Les Pêcheurs de Perles de Bizet à l'Opéra de Berlin dans une mise en scène de Wim Wenders qui vous a d'ailleurs remis au début du mois les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres. Les auditeurs de Radio Classique évidemment vous connaissent bien puisque vous avez dirigé à deux reprises la folle soirée de l'Opéra au Théâtre des Champs-Élysées. Nous en reparlerons tout à l'heure d'ailleurs. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, Toulon, l'actualité la plus récente. Et on peut dire que vous êtes entré dans le vif du sujet parce qu'au moment de l'annonce de votre nomination, vous dirigiez justement l'orchestre de l'Opéra de Toulon dans Thaïs de Massenet. C'était une entrée effectivement en matière assez rapide.
Tout à fait. Et en plus, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un répertoire que j'affectionne particulièrement et que j'ai souvent dirigé et que je veux défendre en France et à travers le monde. Et donc commencer avec un ouvrage d'une telle beauté, pour moi, c'était un rêve.
Alors comment s'est passée votre nomination ? Parce que je crois que les instrumentistes de l'orchestre ont eu, d'une certaine façon, leur mot à dire, en fait.
Alors j'ai l'impression, puis c'est toujours un peu aussi la même manière. Finalement, en fait, j'ai remplacé au pied levé la dernière saison pour un concert là-bas. Et on se connaissait pas du tout, j'avais jamais dirigé à Toulon. Et puis c'est vrai qu'il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est passé, une entente assez forte avec l'orchestre, et puis une émotion musicale et un travail qui était vraiment génial. Et moi je suis très heureux en fait que ça vienne à la fois de la direction de l'opéra et de l'orchestre conjointement, parce que quand toutes les choses sont réunies comme ça, c'est les meilleurs auspices pour démarrer un nouveau projet, et il y a beaucoup de belles choses à venir.
Alors justement, comment voyez-vous votre rôle ? Parce que vous parlez de projet, effectivement, c'est du long terme. Quand vous allez diriger un opéra, par exemple, à Berlin, mais voilà, c'est quelques représentations. Mais là, vous vous inscrivez sur la durée. Il faut bâtir un projet, des opéras à choisir, une direction, et pas que des opéras d'ailleurs, toute une direction aussi artistique à mettre en place.
Oui, tout à fait. Et c'est assez complexe d'ailleurs. C'est déjà un travail en équipe avec la direction. Je pense que c'est une réflexion profonde à avoir avec le territoire. Et pour moi, ça c'est important. C'est-à-dire que j'aime avoir une carrière entre guillemets de chef invité international, d'aller un peu partout dans le monde parce que c'est très inspirant et ça permet de s'améliorer, de travailler, de rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de faire de la musique et de les amener justement dans un endroit où c'est plus la maison, c'est-à-dire que c'est un endroit où on travaille à long terme, on connaît les forces des musiciens, on connaît là où on peut aller, on a vraiment quelque chose à construire aussi citoyen. Et pour moi, c'est très important, en fait, un travail local.
Ça, c'est un travail que vous connaissez au-delà du travail local, le travail de directeur musical. Vous le connaissez puisque vous êtes déjà directeur artistique et musical de l'orchestre de Neuchâtel en Suisse.
Tout à fait. Et j'ai dû justement appréhender une autre culture puisque moi, je suis français. Et la Suisse, c'est vraiment très différent. Et son fonctionnement par canton, justement, est très prégnant. Et justement, en plus, j'ai fait mes premières armes de directeur en plein milieu de la pandémie. Donc là, c'est vraiment le moment où il a fallu réinventer la roue. Finalement, puisqu'on ne pouvait plus jouer du tout dans des conditions habituelles. Et finalement, on a fait d'assez beaux projets un peu fous que je n'aurais pas fait, je pense, s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Et ça m'a donné plein d'idées, justement, pour la suite. Et espérons, sans nouvelle pandémie, on va faire des choses incroyables.
On va vous écouter à la tête, on en parlait tout à l'heure, de l'Orchestre National d'Île-de-France. Vous avez dirigé deux folles soirées de l'opéra. La dernière, c'était l'été dernier, juin-juillet 2023, au Théâtre des Champs-Élysées. Si je vous demande si vous en gardez un bon souvenir, vous allez me répondre forcément oui.
Évidemment.
Évidemment, n'est-ce pas? Bon. Alors, ces deux concerts, parce qu'il y avait deux concerts, avaient débuté par la Bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. On avait fait le programme ensemble, on peut dire les choses. Et vous aviez envie de diriger cette Bacchanale. Pourquoi? C'est le répertoire français, une nouvelle fois, que vous aimez beaucoup?
Oui, non seulement c'est le répertoire français, c'est un opéra extraordinaire et ça donnait justement le goût d'un opéra qu'on ne faisait pas d'ailleurs à cette soirée, mais qu'on avait fait 2 ans plus tôt. Donc j'avais envie de poursuivre l'aventure et de faire comme un fil rouge justement qui peut suivre un peu les différentes interventions que je peux avoir avec les folles soirées. Et finalement aussi, c'est un morceau extrêmement exotique et très dynamique en fait, qui donnait justement à cette soirée une couleur d'entrée tout de suite festive.
Eh bien, on écoute cette bacchanale donc de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Thank you. La Bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Victorien Van Oostende. C'était l'été dernier au Théâtre des Champs-Élysées pour la folle soirée de l'Opéra Radio Classique, de grandes soirées Radio Classique. Victorien Van Oostende qui est ce soir l'invité du Journal du Classique. On va revenir à Berlin parce que c'est une ville importante, l'Opéra de Berlin. Vous y étiez, je le disais au début du mois, vous dirigiez Les Pêcheurs de Perles, mise en scène de Wim Wenders, qui vous a remis, hein, on le disait tout à l'heure, les insignes de chevalier des arts et des lettres. C'est un honneur que d'être décoré comme ça par la France.
Alors c'est un honneur certain, c'est symbolique, c'est une reconnaissance finalement dans un travail justement qui est de propager, j'ai envie de dire, l'art en France et dans le monde. Je pense aussi particulièrement avec mon engagement international sur la musique française, mais aussi au-delà, je pense sur la pluridisciplinalité finalement de mes activités. Donc oui, j'étais très honoré de recevoir cette distinction française par le ministère de la Culture, et particulièrement des mains de Wim Wenders. Alors là, je dois dire que c'était une émotion, même quand j'en reparle maintenant, je suis encore, j'en ai encore des frissons.
Oui, parce qu'il y a une histoire en fait, hein. Ça remonte à 2018. Daniel Barenboim vous appelle, vous dirigez Les Pêcheurs de Perles, toujours à Berlin, mise en scène de Wenders. Donc c'est une histoire en fait qui s'inscrit pour vous.
Oui, c'est une très belle histoire, et puis voilà, c'est particulièrement symbolique avec Wim parce que ça a aussi marqué mes débuts internationaux. Daniel m'avait demandé de diriger un ouvrage français pour démarrer à la Staatsoper, et ensuite j'ai évidemment dirigé d'autres choses, et puis j'ai été son assistant. Et en fait, tout de suite avec Wim, finalement on a travaillé sur cette production, et c'est une production que j'ai toujours reprise depuis 6 ans maintenant. Évidemment, c'est un honneur assez incroyable qu'il ait accepté de me remettre cette distinction. Il a fait un discours extrêmement beau, extrêmement émouvant. Et puis, c'est vrai qu'en plus, avec son actualité particulièrement chargée, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Perfect Days est sur la shortlist des Oscars dans quelques semaines. Donc on croise tous les doigts pour ce film magnifique.
Qu'est-ce que vous avez appris auprès de Daniel Barenboim?
C'est... Qu'est-ce que j'ai appris? Je dis très souvent que j'ai appris en 2 ans avec lui ce que j'ai appris en 20 ans précédemment. Alors évidemment, c'est complètement faux parce que le temps fait son œuvre et on apprend de tout. Mais je pense que l'essence même de l'enseignement de Daniel Barenboim, c'est non pas de me dire comment diriger ou de m'expliquer des trucs et astuces. C'est beaucoup d'observation. Il ne donne jamais un conseil si on ne lui pose pas une question. Donc il y a vraiment un travail actif en fait avec lui. Et puis finalement, j'ai l'impression qu'il m'a aidé par son attitude avec moi et son ouverture, et puis son invitation. Hein. Il m'a vraiment ouvert les portes du théâtre et même de chez lui. C'est vraiment une façon de trouver son propre chemin, de se trouver soi-même. Et finalement, je ne suis pas devenu un ancien assistant de Daniel Barenboim qui dirige comme lui. Je pense que je suis, grâce à lui, devenu moi-même, et en ça, je lui en suis très reconnaissant.
Vous l'appelez encore de temps en temps pour des conseils, ou simplement lui dire voilà, je fais ça en ce moment, pour le tenir au courant? Enfin bon, on imagine qu'il peut se renseigner par lui-même peut-être, mais...
Je l'appelle régulièrement, je vais même le voir quand je le peux. Je m'enquière évidemment de comment il va.
Santé, bien sûr.
Je vais même le voir parfois quand il dirige. Dirige parfois à Berlin ou dans d'autres endroits. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une source de savoir incroyable. Et je suis éternellement reconnaissant et toujours très touché de le voir.
Alors Victorien Van Oostende, on va revenir aux Pêcheurs de Perles, mais cette fois loin de Berlin, puisque c'était au Capitole de Toulouse en octobre dernier. Radio Classique était déjà là pour capter cet opéra. Décidément, vous avez une histoire profonde avec Radio Classique. Et entre le premier acte et le deuxième acte, vous aviez placé un interlude orchestral. Alors concrètement, c'était parce qu'il y avait un changement de décor un peu long. Et vous aviez choisi la suite Jeux d'enfants de Bizet. À l'origine, c'est une suite de pièces pour piano qui a été orchestrée. Pourquoi ce choix de cette pièce, évidemment, au-delà du fait que ce soit une œuvre de Bizet?
C'est vrai que je reviens sur ce que vous dites, mais le théâtre, c'est, enfin, moi, j'adore justement diriger à l'opéra, particulièrement pour ça, c'est que le théâtre, il peut tout arriver, et c'est vraiment un spectacle total. Donc, il faut prendre en considération vraiment tous les éléments. C'est pas simplement un concert où on écoute de la musique, il se passe plein de choses, l'histoire, etc. Il y a des décors, et là, on a une contrainte, c'est que les décors mettent beaucoup de temps à être changés, et on va pas faire attendre le public dans le noir pendant 20 minutes. Donc, il y avait une contrainte technique comme ça. Et je me suis toujours dit, avec ces pêcheurs de perles, avec lesquels, justement, j'ai une relation aussi particulière, je me suis toujours dit, finalement, Nadir et Leïla sont deux enfants qui bravent l'autorité religieuse, l'autorité politique, et ces jeux d'enfants. Alors, en plus, il y a une chose, moi, je le jouais avec mon professeur quand j'étais petit pianiste, petit élève, donc, c'est une œuvre avec laquelle j'ai une affection toute particulière. Et puis, je trouvais justement que ça donnait un petit peu une perspective intéressante aux pêcheurs de perles. Alors, c'est pas du tout la même musique, mais comme un interlude, ça existait même au cinéma à l'époque, hein, quand on pense à Ben-Hur, par exemple, il y a tout un interlude filmé avec juste la musique incroyable de ce film. Bah, c'était un peu dans cet esprit-là.
Eh bien, voici donc les jeux d'enfants Bizet dans sa version orchestrale. Victorien Van Oosten à la tête de l'orchestre du Capitole de Toulouse, captation Radio Classique. La suite d'orchestre, les jeux d'enfants de Bizet, l'orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par Victorien Van Oosten. C'était en octobre dernier. Victorien Van Oosten, l'invité ce soir du Journal du Classique. Alors, parmi vos projets, en avril prochain, Victorien Van Oosten, vous dirigerez l'orchestre de Tours pour un programme symphonique au Grand Théâtre de Tours, mais aussi dans deux plus petites villes, Loches et Montargis, deux villes où il n'y a pas de lieu spécifique pour la musique classique. Et c'est ça aussi votre engagement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs, avec un petit peu avec Toulon. Votre engagement, c'est dirigé d'un côté à l'Opéra de Berlin, au Musikverein de Vienne, par exemple, et puis aussi à la Salle des Fêtes de Montargis pour deux publics quand même a priori différents.
Mais c'est ça qui est formidable et qui est très important dans la musique, puisque finalement, la musique n'a pas de frontières, quelle qu'elle soit. Et je trouve très important, justement, de pouvoir entendre de la musique en vrai. Évidemment, avec les moyens modernes, on peut écouter partout de la musique avec des écouteurs toujours plus perfectionnés, etc. Mais malgré tout, le sentiment humain qui se dégage, les ondes, les vibrations qui se dégagent d'une interprétation réelle avec des gens réels, elle est indescriptible et on pourra jamais l'imiter. Et finalement, je trouve justement très important de ne pas limiter aux grandes villes qui peuvent avoir justement des salles extraordinaires, etc. La musique, elle arrive toujours à se faire un chemin partout, et particulièrement justement dans des endroits où les infrastructures sont pas forcément développées. On trouve justement un public particulièrement friand de ce genre d'expérience et qui en garde un souvenir mémorable.
Et avec ce programme donc qui sera symphonique, vous montrez aussi que vous pouvez diriger à la fois de lyrique, l'opéra et de la symphonie. C'est complémentaire parce que parfois il y a des chefs qui ne font que du lyrique et qui touche vraiment que très rarement au symphonique, et l'inverse aussi, bien sûr.
Mais vous savez que je joue aussi du piano, c'est-à-dire que pour moi...
Mais je sais, on allait y venir, vous m'enlevez la transition.
Non, je vous en prie. Pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est très important, c'est vraiment très important de multiplier les opportunités de faire de la musique. Donc, évidemment, l'opéra, c'est un peu la musique de mon cœur, c'est un peu là où je suis né, c'est là où j'ai démarré, à l'opéra de Marseille, puis à l'opéra de Berlin, etc. Et puis c'est une activité que je garde vraiment très prégnante, j'adore les chanteurs, et puis c'est vraiment un répertoire que je fais depuis toujours. Mais évidemment, j'ai une activité symphonique qui est presque plus importante maintenant dans ma carrière actuelle, où je dirige énormément ça. Et je continue à faire aussi du ballet, parce que j'adore la danse, j'ai des relations particulières avec de grands chorégraphes, et évidemment, il y a des ballets, sans citer les classiques Tchaïkovski, Le Sacre du Printemps, Daphnis et Chloé, toutes ces merveilles de musique, bah, c'est tellement beau de pouvoir le faire avec cet art incroyable qui est la danse. Donc, finalement, voilà, la musique, ça englobe tout, et je ne veux pas être ni spécialiste, ni dans une...
Et donc place. Ça, c'est aussi des perspectives pour l'Opéra Toulon, ça veut dire qu'il y aura du lyrique, il y aura du symphonique, évidemment, c'est important pour vous, ça.
Évidemment, c'est important pour moi, non seulement, mais le plus important, c'est que c'est important pour le public, pour l'orchestre. Pour l'opéra, pour la population toulonnaise, et au-delà. De même que des actions où l'orchestre va justement se déplacer et rayonner dans toute la région, voire au-delà, c'est très important pour les deux, pour que le public découvre parfois un orchestre qu'il ne connaît pas, et que l'orchestre justement tire toute cette expérience et tout cet amour de la musique de un peu partout.
Alors c'est vous qui allez faire la conclusion, vous le disiez, vous êtes pianiste également, hein, et vous avez enregistré un disque de transcription pour piano de différentes œuvres célèbres, et ce sont vos propres transcriptions.
Ce sont mes propres transcriptions, effectivement, comme quoi, quand j'étais vraiment uniquement pianiste et pas encore chef, la question sûrement me titillait déjà. Le piano, c'est important pour moi. Je me souviens, justement, on parlait de Daniel Barenboim tout à l'heure, je me souviens avoir eu cette discussion où il me disait très souvent « travaille ton piano, continue à travailler ». Et je lui dis, mais maestro, j'ai plus le temps là. Il me dit, moi, qu'est-ce que tu crois que j'ai le temps? Donc ça m'a remis en place. Je me souviens très bien, et j'ai toujours travaillé. Alors je n'ai pas de piano, je n'ai plus de piano. Je voyage beaucoup trop, mais je travaille dans tous les théâtres où je vais. Donc j'ai la chance de jouer sur beaucoup d'instruments. Et puis c'est une manière aussi, vous savez, la physicalité du son. Quand on est chef d'orchestre, parfois elle nous manque. C'est-à-dire que c'est la sensation la plus merveilleuse de pouvoir diriger un orchestre et de partager tous ces sons avec des millions de poumons qui respirent et d'âmes qui pensent et d'instruments qui jouent. Mais quand on joue un instrument, quel qu'il soit, en fait, on a un rapport à la physique qui est différent. Et finalement, de jouer avec l'orchestre, qui m'arrive aussi régulièrement, ça permet de partager aussi une expérience d'instrumentiste avec l'orchestre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Eh bien, on va se quitter, Victoria Van Oosten, en vous écoutant justement au piano, votre arrangement pour piano, votre transcription du célèbre et magnifique prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Merci beaucoup, Victoria Van Oosten.
Merci, Jean-Michel.
Claude Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune joué par Victorien Van Oosten dans sa propre transcription pour piano, Victorien Van Oosten qui était ce soir l'invité du Journal du Classique.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Jean-Michel.
Et nous partons avec vous à Genève en compagnie de Mozart.
Et quelle compagnie,
n'est-ce pas ?
Alors on aime employer, et on a tout à fait raison, l'expression d'art total quand on évoque l'art lyrique, l'opéra, lui qui fait appel bien sûr aux disciplines de la musique, mais aussi à celles du théâtre, des arts visuels, de la danse souvent. Et c'est plus que jamais le cas avec cette nouvelle production d'Idoménée de Mozart, proposée donc par le Grand Théâtre de Genève, comme vous l'avez dit, jusqu'au 2 mars prochain. Idoménée fut composée par un Mozart de 25 ans, créé à Munich en 1781 et considéré souvent comme le premier des grands chefs-d'œuvre de l'auteur de Don Giovanni et de La Flûte enchantée qui allait mourir 10 ans plus tard, comme on le sait. Les représentations qui ont commencé hier à Genève sont placées sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón, un habitué de cette scène, dans une mise en scène du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, ce dernier qui est d'ailleurs le directeur du ballet du Grand Théâtre. Et le décor s'annonce également spectaculaire et très singulier puisqu'il est signé de la place plasticienne japonaise Chiharu Shiota, célèbre pour ses extraordinaires créations en tissage. Vous vous rappelez peut-être, on avait pu admirer ses installations au musée Guimet à Paris il n'y a pas si longtemps. Et quoi de plus évocateur en effet que ces gigantesques entrelacs de fils rouges qui sont vraiment sa marque de fabrique pour figurer le piège qui se referme, que les dieux referment sur le roi Idoménée auquel un sacrifice absolument épouvantable et demandé.
Alors justement, Emmanuel, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de l'intrigue d'Idoménée ?
Je ne sais pas si je le peux, je vais le tenter.
Vous avez un petit peu de temps.
Voilà, quand le rideau se lève, nous sommes en Crète, sous le règne donc d'Idoménée, qui a combattu aux côtés des Grecs durant la fameuse guerre de Troie. Et de retour chez lui, après avoir échappé à une terrible tempête, il est en proie à un dilemme absolument épouvantable. Pour remercier Neptune, le dieu des mers, comme on sait, de l'avoir épargné, il a en effet promis de lui sacrifier le premier être vivant qu'il rencontrera une fois à terre. Et il se trouve que cette première personne qu'Idoménée croise n'est autre que son fils Idamante. Donc on imagine évidemment c'est horrible. Et s'ajoute à ce drame des amours réciproques ou contrariés. Idamante aime et est aimé d'Ilia, qui est une jeune princesse troyenne, donc du camp ennemi, vaincue mais ennemie, ce qui met au désespoir et en fureur même Électre, qui elle est la fille d'Agamemnon, le grand roi grec. Donc directement inspiré de la mythologie antique, noble et passionné comme elle, c'est un ouvrage qui répond au canon de l'opéra seria avec des airs de bravoure, de rage ou de déploration, tout en offrant de multiples et extraordinaires ensembles dont Mozart a déjà pleinement le secret, pleinement le génie. Sans oublier une partie chorale très développée, d'une fulgurance absolument magnétique et d'une très grande éloquence, la même qu'on retrouvera 10 ans plus tard, par exemple dans la scène de l'incendie du Capitole de la Clémence de Titus, le dernier opéra de Mozart. La distribution à l'affiche du Grand Théâtre est magnifique, avec notamment le ténor Bernard Richter dans le rôle titre, mais aussi,
il faut le rappeler,
absolument, voilà, donc il est chez lui, mais aussi la mezzo-soprano Léa de Zand dans celui du tendre Idamante de son fils qui finalement sera épargné après tellement de péripéties. Donc on va partir ensemble pour Genève, du moins en musique, avec un extrait d'Idoménée et l'ouverture de cet opéra formidable.
Nous partons à Genève. Merci ma chère Emmanuelle et rendez-vous la semaine prochaine.
Jean-Michel, absolument.
Thank you.
l'ouverture d'Idoménée de Mozart dans l'interprétation de l'orchestre baroque de Zurich dirigé par René Jacobs. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour le prochain Journal du Classique. Je recevrai Claire de Monteil qui a fait ses débuts à la Scala de Milan en remplaçant au pied levé Marina Rebecca dans le rôle titre de Médée de Cherubini. À demain, 20h, votre soirée dans l'immédiat se poursuit en compagnie de Francis Drezel.